Soleil d'un jour sur Radio Lac, c'est tous les dimanches entre 11h et midi avec Maurice Sefti. Maurice, bonjour.
Bonjour, de Oaxaca à San Miguel del Milagro en finissant à Cacaxtla.
Nous étions à Oaxaca la semaine dernière, dimanche dernier, Maurice. À partir de Oaxaca, on se dirige de quel côté ?
Eh bien, en partant de Oaxaca, on va naturellement monter vers le nord, puisqu'on venait du sud. Et,
on était plus précisément à Montalban.
On était sur le site de Montalban, qui se trouve à 9 km de Oaxaca. Je dirais qu'on va prendre quelques raccourcis, c'est-à-dire qu'on pourrait imaginer faire cette route extrêmement tortueuse, magnifique, qui permet de grimper depuis Oaxaca à 1600 jusqu'à 2000, et on s'arrêtera pratiquement à 2600 mètres tout à l'heure d'altitude, c'est-à-dire qu'on va faire plus de 600 km vers le nord, comme si on se dirigeait sur la capitale. On est bien sûr au Mexique, et en l'occurrence, en partant de Oaxaca, on va rencontrer de nouveau ces régions très, très travaillées, très, très forte sur le plan rocaille, cactus, parce qu'on est dans la Sierra Madre. Et c'est seulement après des heures et des heures de route qu'on va à nouveau découvrir une sorte de vallée incroyable et surtout un climat. Tiens, on se dit, il fait chaud, il fait bon, il y a quelque chose de subtropical. C'est la canne à sucre qui va annoncer la couleur. On va arriver dans une zone qui est assez près de Mexico. On est à 100 et quelques kilomètres seulement, derrière les grandes chaînes qui nous séparent de Cuernavaca, les grands volcans, le Popocatépetl, l'Itzcoatl, qui sont toujours présents avec leurs neiges éternelles.
Alors ces 600 kilomètres, on les fait comment ?
Alors, on va les faire par la route, de façon tout à fait naturelle, en se laissant glisser de virage en virage, un petit coup à gauche, un petit coup à droite. Et quand on arrive dans cette immense vallée, il y a plusieurs villes intéressantes. Mais bien sûr qu'on va bifurquer pour apercevoir cette chaîne volcanique que j'évoquais avec ces jumeaux, là, ce volcan en forme de cône parfait et puis cette dame couchée qu'on a déjà vue sur des clichés parce que c'est vraiment le grand classique du Mexique. Il y a un sommet plus élevé qui est le pic d'Orizaba qui se trouve alors beaucoup plus loin sur la côte du Golfe. Mais on va retraverser l'état de Puebla, donc la ville de Puebla qu'on a déjà évoqué, et j'aimerais qu'on se dirige alors tout à fait ailleurs, c'est-à-dire qu'on va monter un peu plus avant sur le nord. Là vous êtes carrément à droite de la capitale sur la carte, vous êtes en dessus de Puebla, et là on va retrouver un autre massif volcanique. Je l'aime beaucoup parce que la Malinche, ça évoque à la fois la conquête, ça évoque Cortés, c'était son ami entre guillemets, c'est-à-dire sa compagne indienne qui va l'aider dans sa conquête du Mexique. Et on va effleurer la ville de Cholula, qu'on visitera peut-être une autre fois. On va traverser ce grand réseau autoroutier qui va de Mexico à Veracruz. Et on va se lancer dans une campagne qui est tout à fait nouvelle visuellement. Il y a des milliers de champs minuscules, il y a des milliers de paysans partout. C'est l'état le plus petit du Mexique, sur le plan concentration, mais le plus peuplé aussi. C'est l'état de Tlaxcala. Tlaxcala, c'est une ville qui aujourd'hui est assez endormie. On la visitera aussi. Vous voyez que je ponctue des endroits.
Vous disiez des paysans, en fait.
Ce sont des vrais paysans indiens, ouais. Ce sont de vrais paysans métis. Alors, le maïs, bien sûr, qui est la production majeure. Et puis, je dirais que le premier champ qui va nous interpeller, c'est peut-être un superbe champ d'amarante. L'amarante, c'est une plante assez élevée qui fait à peu près 1 mètre, 1 mètre 50 quand elle est vraiment en pleine forme et qui a une sorte, c'est difficile à décrire, c'est une grappe. Une grappe, vous avez peut-être déjà vu du jonc, par exemple, on a cette impression d'une grappe très forte. Alors l'amarante, c'est déjà un peu plus léger comme formation, mais ce sont des tout petits grains qui, lorsque l'amarante est en fleur, sont d'un rouge lit de vin. Comme cela. Et lorsqu'elle est mûre, l'amarante, on enlève les petits grains de cette grappe, qui est immense, qui fait quand même 10-15 cm de hauteur, c'est gros comme un gros doigt, et vous allez retrouver des milliers de petits grains, et lorsque l'enveloppe rougeâtre est enlevée, vous avez une sorte de pellicule autour du grain lui-même, alors vous retrouvez des petites têtes d'épingles minuscules par milliers dans votre corbeille, votre assiette ou l'endroit où vous essayez d'obtenir le fond de la chose, et l'amarante, on connaît ça à cause de la couleur. Quand on dit couleur amarante, bien sûr, ça fait un peu rêver à ce ton lit de vin. Mais à l'intérieur, c'est une graine qui est extrêmement nutritive et qu'on mange en général en soupe. Ça fait une sorte de brouet assez épais, mais c'est peut-être une des plantes les plus nourricières du Mexique. Mm-hmm. Et elle revient un peu à la mode, comme certains nouveaux aliments, comme on trouvera du sorgho, comme ailleurs on trouverait du soja. Et la marrante, on la remet en avant, sinon elle est très difficile à travailler. Vous avez compris que pour obtenir ce petit grain, il y a pas mal de travail. Mais j'avoue que si je m'arrête devant un champ comme cela, c'est parce que cette couleur au milieu du jaune, au milieu du vert, au milieu du bleu du ciel, ce rouge d'une vivacité fantastique, c'est quelque chose qui nous interpelle toujours. Il y a des saisons, bien sûr, pour la marrante, mais il y a surtout le fait qu'on est dans un paysage qui ne paraît pas très montagneux. On a surtout l'impression d'espace extraordinaire. Cette vallée de Puebla est superbe. On monte dans des régions peut-être un tout petit peu plus rocailleuses, mais tout à coup, on se trouve systématiquement sur des sortes de balcons, des petits cerros comme ça, qui nous permettent d'avoir...
Une sorte de terrasse comme ça.
Si vous voulez, ou carrément des monticules assez doux comme ça. Mais chaque fois, on a l'impression d'avoir 80 ou 100 km devant soi. Alors, vous voyez maintenant ce massif volcanique que j'évoquais avec ces neiges éternelles, mais la Malinche a pris une certaine place, là, au milieu de cette vallée. Et plus vous grimpez, évitons peut-être l'Axcala, arrêtons-nous là en pleine campagne dans une toute petite route un peu perdue à San Miguel del Milagro. San Miguel del Milagro, j'ai envie d'évoquer ce lieu parce que c'est un peu légendaire. Vous êtes à 2600 et quelques mètres, j'évoquais l'altitude tout à l'heure, c'est important, l'air est beaucoup plus pur, beaucoup plus frais, les paysages sont de nouveau plus vastes à cause de cette pureté de l'air. Et quand on imagine ce qui s'est passé là, on comprend qu'il y a des légendes qui sont curieuses. On reprend toujours les mêmes thèmes lorsqu'il s'agit de religion. C'est un lieu très fort, il y a énormément de sites archéologiques qui ont été découverts petit à petit dans cette zone, mais rien n'était connu jusqu'à il y a quelques années. Alors, je sais pas, on savait qu'il y avait Xochitlcatl, qu'il y avait Alcoyo, qu'il y avait Atlachino, Mixco, des noms qui font rêver, tout simplement comme cela. On se dit, tiens, il y a eu des Aztèques, tiens, il y a eu d'autres personnes, il y a eu des Toltecs. Et là, quand on arrive du côté de San Miguel, eh bien, il faut savoir qu'en 1631, il y a une sorte de miracle. Ça s'appelle San Miguel del Milagro, hein, donc du miracle. Et si ça s'appelle San Miguel, c'est que Saint-Michel est apparu. Alors, je remettrai la chose en place. C'est un jeune Indien de 16, peut-être 17 ans, qui en 1631 faisait ce qu'il faisait chaque année. C'est-à-dire, il allait systématiquement suivre les grands événements religieux. C'est les années 1600, c'est encore le début de la colonie. On a l'impression qu'un Indien doit s'impliquer. Alors, il suit une procession, ça l'intéresse. Et il va à une grande fête au mois d'avril 1631. Et là, juste après la fête, tout à coup, il tombe sur l'archange qui lui parle et qui lui dit qu'il est malade. Il a une maladie assez curieuse. L'archange lui dit, écoute, tu devrais aller chercher là, derrière cette barranca. Une barranca, c'est une sorte de fossé, comme il y en a plein, comme c'est rocailleux. Mm-hmm. Et tu vas trouver une source, et cette source sera une source miraculeuse. Elle permettra de guérir qui que ce soit. Tu peux te guérir toi-même, mais tu dois le faire savoir. Et finalement, il doute un peu. Il y aura une autre fête.
J'aime ce genre de légende.
Ben oui, il y aura une autre fête. L'archange va se fâcher un peu. Il va réapparaître. Si j'ai bonne mémoire, il prétend même qu'il portait un long bâton d'or avec une croix au bout. On reste chrétien, même s'il est indien. Et il aurait touché cette source, un peu comme Moïse, en disant c'est bien cet endroit, tu dois le faire savoir. Et naturellement, il essaye d'en parler. Et la source existe, il la trouve, mais c'est une source qui est déjà connue des habitants de la région. Alors les religieux du coin se disent, si ça s'appelait la source des opilotes. Vous savez, les opilotes, ce sont ces charognards qu'on voit dans la région. Dès qu'il y a un cadavre à quelque part, ces charognards arrivent tous au même endroit. Et cette source qui portait donc le nom précolombien d'Atl, l'eau pure, lui l'utilise et il est guéri fantastiquement.
Mais lui seul.
C'est vraiment la révélation pour lui. Et à partir de là, si je me rappelle bien de la légende, tout le monde doute. On dit, si cette source existe, c'est une blague. Il a eu une apparition complètement farfelue. Alors, il a une idée assez saugrenue. Il prend de l'eau. Et il descend à Puebla. Puebla, c'est vraiment la capitale religieuse. On l'a évoqué, c'est un endroit où on a essayé de déplacer le pouvoir indien et de créer une ville de toutes pièces pour les Espagnols. Et là, il tombe sur les grandes autorités, c'est-à-dire l'évêque de Puebla. Il rentre dans l'hôpital du lieu. Naturellement, vous voyez tous ces malades qui sont... On imagine bien la scène, hein, un côté monacal, les gens allongés sur des lits. Et il offre de l'eau à chacun. Et tout le monde est guéri. Ça, c'est le vrai miracle. Et à partir de là, c'est vrai que déjà dans cette année 1631, je crois au mois d'octobre, on imagine qu'à l'endroit où il y avait cette source, on va créer une chapelle. Et l'endroit va s'appeler, naturellement, Saint-Michel du Miracle. Just to see her. Just to touch her. Just to hold.
Tout à l'heure, nous étions en 1631, on parlait de cette source du miracle. Est-ce qu'aujourd'hui, les gens, les paysans du coin vont toujours...
Oh, plus que cela, on vient carrément de tout le Mexique et même de l'Amérique centrale, à San Miguel del Milagro. Personne ne connaît ça sur le plan touristique, c'est vrai. L'église a gardé son charme des années 1600. L'apparition, c'était le 25 avril 1631. On pourrait quand même le nommer, cet Indien qui s'appelait Diego Lázaro de San Francisco. C'est joli comme nom. Mm-hmm. Et a créé un culte qui était absolument fantastique parce qu'on a créé une chapelle, il y a un puits maintenant, on a comblé un peu la barranca, mais en construisant naturellement... comme on le fait pour chaque sanctuaire, dès qu'il y a une source, quelque chose de particulier, le sanctuaire vient se poser dessus et vous êtes obligé de pénétrer à l'intérieur. Bon, on a refait un peu la tour, on a mis une horloge, il y a eu quelques petits changements au point de vue architectural, mais c'est un endroit qui reste beau et qui reste surtout fabuleux lorsqu'on y va, je sais pas, il faut aller au mois de mai, au mois de septembre, au mois d'octobre, lors des grands, grands pèlerinages. Alors, cet endroit n'existait pas, puisqu'il a été inventé de toutes pièces. Là, notre procession de tout à l'heure, c'était dans la petite parroquia, la petite paroisse de notre Indien, à San Bernabé. À côté, il y a un lieu qui s'appelle Nativitas, c'est joli, naissance, Noël. Et c'était la paroisse où il a été parlé pour la première fois de son miracle, personne ne l'a écouté. Mais aujourd'hui, San Miguel, c'est un vrai village qui tourne autour de ce sanctuaire. Et finalement, il y a eu un autre miracle en 1973, et qui lui...
En 1973
c'était, non, 1973. Pour être plus précis. Oui, c'est deux ans après, parce qu'en 73, on avait déjà fait quelques fouilles clandestines sur la colline voisine. Mais c'est en 75 qu'on a eu la grosse révélation, le véritable miracle. Alors, imaginons quelqu'un qui va de temps à autre gratouiller la terre. Je vous ai dit qu'il y avait... Mais oui, il y avait une dizaine de sites sur chaque colline de la région. Chacun de ces promontoires que j'évoquais tout à l'heure, eh bien, correspond pratiquement à une ruine précolombienne. Mais rien n'avait été fait de façon définitive. Et un jour, quelqu'un qui habitait à San Miguel et qui aimait gratouiller le dimanche, monte sur la colline de Cacaxtla, on connaissait déjà le nom du site, et là, il va découvrir tout à fait par hasard une peinture. Quand je dis une peinture, alors c'est difficile à imaginer en radio, mais je vous dirais, il a simplement découvert le sommet d'un mur. Vous imaginez un mur qui fait 30 ou 40 centimètres d'épaisseur, qui est fait à la fois de chaux, de terre, de pierre, et puis un recouvrement comme vous l'auriez à l'intérieur de votre appartement, c'est-à-dire du stuc qui est déposé de façon extrêmement précise sur l'avant du mur. Et là, tout à coup, il découvre un visage, ou plus exactement, une coiffe complète à la précolombienne, avec des plumes, un harnachement, et un visage superbe avec un œil fait, vous savez, comme l'œil de biche, vraiment peint et avec des couleurs somptueuses. Et il découvre celui qu'on appelle le cavalier aigle, c'est-à-dire un homme qui se présente avec un visage tout noir, comme s'il avait été peint en noir, avec sur sa tête, ouvrez le bec d'un oiseau carrément, vous ouvrez le bec d'un oiseau, vous mettez la tête de l'homme à l'intérieur et vous lui mettez un œil, un superbe œil d'oiseau qui a un ton d'un bleu éblouissant, avec cet œil noir et blanc de l'oiseau, et puis le visage lui-même avec cet œil de biche blanc au centre. Et là, il en parle, c'est-à-dire qu'il commence à descendre d'abord, un peu comme notre Diego de tout à l'heure, il descend au village, on n'écoute pas... Et il va même voir les autorités de Tlaxcala. C'est un petit état, tout le monde
donc
dort un peu.
En 1973.
En 1975.
75, pardon.
Eh bien, en l'occurrence, il va dans la capitale de l'état, une petite ville endormie, toute rouge. On en parlera peut-être la semaine prochaine. Mm-hmm. Et en l'occurrence, il en parle à ceux qu'il rencontre, c'est des autorités politiques, et puis personne ne le croit. Alors, il a sa révélation au moment où il se dit, il faut que je prenne une photo. Alors, si l'histoire est vraie, il prend un polaroid et il commence à faire le tour, et finalement, les autorités du musée d'anthropologie réagissent et on vient voir cette chose. Et là, c'est la bombe absolue, parce qu'une qualité de peinture comme cela en plein air, on n'avait jamais trouvé.
Donc là, on ne gratouille plus le dimanche, on gratouille du lundi au dimanche.
Alors là, ça a été carrément une campagne de fouille complète. Et le personnage que je vous évoque, on pourrait le décrire un tout petit peu, parce que là, je vous ai mis une tête d'oiseau, comme une sorte de casque assez curieux. Mais quand vous le prenez dans son ensemble, c'est un personnage qui est debout, pratiquement grandeur nature, sur un fond d'un rouge somptueux. C'est rouge cinabre, c'est du sulfure de mercure, hein, c'est la vraie couleur de pompe Pompéi, si vous voulez. Mmh. Et puis, vous avez ce personnage qui, c'est pas un bleu courant, hein. C'est un bleu qui est
Un bleu émeraude.
Oui, émeraude, hein, turquoise.
Bleu vert.
Plutôt turquoise, hein. Je préférais cette pierre parce que l'émeraude a un côté vert, hein.
Ouais,
quand je dis turquoise, c'est que c'est déjà bleuté.
Ouais.
Et c'est vraiment un bleu particulier. Le bec de l'oiseau est d'un jaune, c'est jaune un peu ocre comme cela. Et le personnage porte, carrément, il a ses deux bras refermés, sur lui-même, hein, comme si on voulait prendre quelque chose comme quand on embrasse quelqu'un, si vous voulez, au sens embrasser du terme. Et il tient en fait une espèce de sceptre énorme qui est également bleu, avec une gueule énorme à un bout et une langue rose. C'est vraiment le sens du pouvoir. Il tient ça à travers son corps, il porte une jupette fantastique, il y a des décors de papier, il a des chevilles très curieuses aussi qui sont harnachées avec des rubans, avec du papier blanc. Et puis ses pieds sont carrément, j'entends, ses chaussures sont véritablement des cerfs. Comme si vous aviez...
c'était bien l'homme aigle.
C'était vraiment le chevalier aigle dans toute sa splendeur. Mmh. Et autour de lui, il y a des choses fascinantes. Quand on voit pour la première fois cette peinture de près, on peut maintenant visiter tout cela. C'est sous un hangar fabuleux qui fait presque 100 mètres de longueur sur 70 mètres de large. C'est-à-dire toute la colline a été recouverte, toute la colline a été fouillée. Mmh. Et là, en une heure, on aura la difficulté à décrire tout ce qu'on a découvert depuis 1975. Mais sur la droite de ce personnage, il est d'abord posé sur un serpent. Alors, quand on regarde la fresque, on se dit, c'est curieux, il n'y avait pas de dragon au Mexique, mais le serpent à plumes, ça existe. C'est un véritable serpent à plumes bleu, avec le dessous du corps jaune, avec une gueule à l'avant, avec une petite barbichette, qui est de la barbichette, qui est sûrement celle d'un cerf ou quelque chose comme ça. On mélangeait volontiers les animaux. Et ce serpent, il tourne autour du motif, parce que vous avez compris qu'on est devant un bâtiment. C'est-à-dire, on est plus exactement devant une porte d'un bâtiment. Quand on a commencé à creuser, on a trouvé un portique, si vous voulez, une porte qui était ouverte sans linteau dessus parce que le bâtiment a été démoli par le temps, par les fouilleurs clandestins, par l'usure. Et en l'occurrence, c'est un peu comme si vous enleviez le dessus de votre porte et que vous gardiez simplement les deux murs qui sont de chaque côté. Et là, c'est des deux côtés, on va retrouver des décors picturaux absolument fantastiques. Alors, le serpent lui-même, il fait le tour du décor, il tourne autour. Alors, entre le serpent et le personnage, par exemple, il y a un guacamaya, un perroquet. Un perroquet qui est de la même couleur, ce bleu avec ce jaune. Il vole carrément. Il y a des symboles curieux, des hiéroglyphes. Il y a, par exemple...
Ça, c'est quelle époque, donc?
Ça a été aussi une révélation assez curieuse. Là, on devance les problèmes d'histoire et d'archéologie. Quand on a commencé à fouiller, on s'est dit, c'est pas possible. Cette peinture, quand je la regarde aujourd'hui, je me dis, tiens, ça a l'air d'être quelque chose de maya. Ça a l'air quelque chose de totalement classique. Ça ressemble aux choses qu'on a trouvées dans le sud. Je vous rappelle, on est à 2600 mètres d'altitude, on est sur les hauts plateaux. Et puis, on fait des recherches chronologiques et on trouve que ça a été peint entre 750 et 900 de notre ère. Donc, pratiquement à la fin du classique, là, je suis un peu scientifique. Mais en l'occurrence, ce qui est intéressant, c'est quand on commence à prendre les symboles secondaires, les hiéroglyphes que je disais. Il y en a un, par exemple, à gauche, d'une espèce de carré avec deux petites mimines qui sont refermées, comme si on voulait montrer un patio qui s'enfermait avec des... Il y a des coquillages découpés qui font penser à la planète Vénus, ça fait penser à l'eau. Et quand on voit pour la première fois ceci, on se dit que ces hiéroglyphes ne sont pas mayas. Qu'ils sont plutôt de cette ville qu'on a visitée là au début de notre parcours, du côté de Teotihuacan, la pyramide du soleil, de la lune. Mais Teotihuacan a brûlé en 650 de notre ère, il n'y a plus personne là-bas. Donc Cacaxtla devient tout à coup une fantastique capitale entre le cœur de la nation mexicaine d'aujourd'hui et la mer, cette mer qui se trouve en bas du côté de Veracruz. Cacaxtla, vous allez le voir simplement par la description de quelques peintures, c'est un centre commercial. On va voir autour de cette colline des fossés, des fortifications. Il y a la guerre, il y a la défense. Cholula est déjà abandonné, qui est dans la plaine. Cacaxtla devient un peu le centre du monde de cette époque en 900. C'est le point de contact entre l'univers maya tout au sud et le centre du monde qui lui reste aujourd'hui Mexico.
Days are over. You don't have to sell your body
Maurice, on a du mal à visualiser un petit peu ces murs, cette quelle grandeur, ça représente quoi réellement sur cette colline.
Il faut être un peu devant pour voir, c'est vrai. Non, l'endroit où se trouvent ces peintures, lorsqu'on l'a dégagé, la grande surprise des archéologues, c'est d'abord de trouver des peintures absolument intactes. Alors, il faut savoir que dans les années 900...
Protégées par la terre.
Oui, non pas par la terre, par les hommes. Je veux dire par là que dans les années 900 ou 1000, les gens qui avaient cela sous les yeux et qui avaient envie de construire quelque chose par-dessus, l'ont recouvert. Et ils l'ont recouvert en le protégeant volontairement avec du sable fin, du sable sec. Et c'est ça qui a créé le miracle de la découverte de ces peintures, c'est qu'elles ont été protégées volontairement par les précolombiens eux-mêmes. Alors le bâtiment, il n'est pas très grand, il fait quelque chose comme 13 mètres sur 8. Imaginez-vous une salle simplement de 13 mètres sur 8, avec ces gros murs dont je parlais. Et nous sommes en fait à l'extérieur de la salle, c'est-à-dire devant la porte. Alors sur la droite, on a vu notre homme tout peint en noir, avec ses grandes ailes d'oiseau. Je crois même pas que je les ai évoquées d'ailleurs, mais c'est vrai qu'il a deux ailes superbes de chaque côté. Avec sa grande barre cérémonielle à la façon maya. Et puis de l'autre côté, c'est-à-dire, oublions la porte pour un tout petit instant, sur l'autre pan de mur, vous avez un deuxième personnage qui le regarde, c'est-à-dire qu'ils sont face à face. Alors l'autre est intéressant, là j'ai parlé d'un homme oiseau, l'autre, si vous le regardez bien, c'est un homme jaguar. Et si on regarde déjà en commençant par le bas, par le sol, il y a une sorte de frise qui fait tout le tour. Alors j'ai évoqué le serpent qui en faisait le tour. Et bien le serpent de droite, il est à plumes et il est vert. Le serpent de gauche, il est en jaguar. C'est-à-dire que c'est un serpent jaguar qui a à peu près la même attitude. Et tout autour, il y a encore des éléments très curieux. Il y a des crabes.
Oui, il y a plein de petits animaux.
Il y a des petits animaux très marrants. Vous avez d'ailleurs la vision sous les yeux.
La tortue.
Vous avez des tortues. Vous avez aussi tout ce qu'on peut rêver de voir en fait en mer. Donc des petits triangles successifs qui nous évoquent l'eau et le côté très aquatique comme ça. Alors le personnage de gauche, il est intéressant parce que si on le regarde, j'évoquais le jaguar, c'est un homme habillé en jaguar, comme s'il avait mis sur lui une peau complète de jaguar. Il a aussi le visage assez foncé, mais une couleur basanée normale, et il porte également quelque chose qui ressemble à la barre de tout à l'heure, mais si on l'observe bien, cette nouvelle barre, elle est différente. Elle a des nœuds, et en fait, c'est un peu ce qu'avaient les Romains. Vous savez, quand on mettait les lances ensemble ou qu'on mettait certaines armes ensemble, c'est une sorte de paquet de javelines en bas. Et on voit bien à la pointe qui va vers le bas, puisqu'elle traverse de nouveau son corps, c'est-à-dire qu'il la tient devant par les deux bras. On voit au bout qu'il y a des pointes de lance et on voit que de cet ensemble, comme une sorte de bouquet, coule quelque chose. Il y a des gouttes d'eau qui descendent petit à petit sur notre serpent jaguar sur le sol. Donc cet homme porte également un harnachement fantastique, mais cette peau de jaguar, on voit d'ailleurs les pieds sont de nouveau comme tout à l'heure très évocateurs de l'animal, parce qu'en fait il n'y a plus de serre comme on l'a vu pour l'oiseau, mais maintenant ce sont des griffes et les pattes véritables du jaguar. Donc face à face, je peux dire j'ai un jaguar qui porte une coiffe de plumes de Quetzal fantastique. C'est cet oiseau exotique avec ses longues plumes qui font 60 centimètres, qui sont fantastiquement peintes ici. Il y a plein d'hiéroglyphes de nouveau. Et on évoque des hiéroglyphes qui sont très précis. C'est-à-dire qu'on va remarquer que ces deux personnages, finalement, représentent à la fois Tlaloc, le dieu de la pluie, et Quetzalcoatl, le serpent à plumes, dans l'idée agricole. Donc en fait, on est en train de nous parler. Là, je traduis déjà, c'est un peu comme si je vous disais, avec quoi est-ce qu'on va arroser une plante? Parce que quand on rapproche les deux personnages vers le centre et qu'on se rapproche de la porte, on voit deux plants de maïs qui sont peints sur le devant de la porte, comme ça, qui montent jusqu'au ciel du bâtiment et qui nous font penser à cette agriculture, à cette végétation. Alors, quand on veut planter du maïs, il y a deux moyens. Soit on attend l'eau du ciel, celle qui tombe du ciel, et puis on se dit, ça va pousser demain. C'est ce qu'on fait en général sous nos latitudes à 2600 mètres, vous pouvez le faire facilement. Et puis l'autre solution, c'est de faire ce qu'on fait en Valais, c'est-à-dire d'imaginer qu'on a une certaine difficulté à certaines époques de l'année et qu'on peut récupérer de l'eau, des sources, et il y a beaucoup de lacs, il y a beaucoup de choses dans la région, il y a plein de sources, on l'a vu pour le miracle de tout à l'heure, et là, c'est ce qu'on appelle de l'irrigation. Donc, involontairement, je viens d'évoquer deux sortes d'eau, une qui tombe du ciel, l'autre qui existe déjà sur Terre. Et ces deux personnages, le jaguar et l'oiseau, ben, c'est justement la représentation de cette eau multiple, duel en tout cas, qui nous montre qu'on peut faire pousser ce maïs de deux façons différentes. Alors ça, c'est une hypothèse, mais elle est très intéressante parce que quand on pénètre, j'entends, si vous glissez à l'intérieur de la porte, il y a l'épaisseur du mur, il fait un peu plus de 40 cm, ou je dirais même, tout à l'heure, j'étais un peu modeste en disant 30-40, parce que quand on voit la largeur de la peinture, là j'écarte mes bras, ça doit quand même faire 50 cm, voire peut-être 60 même. Et là, il y a encore deux personnages qui sont peints, disons, qui accompagnent notre homme oiseau et notre homme jaguar. Et ces deux personnages sont encore plus étranges, puisque un va évoquer, toujours en noir, habillé somptueusement, quelqu'un qui renverse une jarre. Un peu comme si on voulait verser quelque chose. Il y a un petit personnage qui sort d'ailleurs de sa jarre. Et de l'autre côté, eh bien, au contraire, on a un deuxième personnage qui, lui, alors a quelque chose d'encore plus fabuleux. Il est toujours habillé en jaguar, mais de son nombril, il y a une sorte de plante qui sort. Hein. C'est vraiment la naissance des choses. Là, le nombril, c'est le cordon ombilical. Et à la place de son cordon ombilical, c'est une plante exotique comme ça qui coule, qui descend vers le sol. Et lui porte une autre jarre qui a le symbole de Tlaloc. C'est vraiment le dieu Tlaloc, comme on l'a vu à Oaxaca, comme on l'a vu à Teotihuacan. Et il renverse sa jarre, alors on a l'impression d'un flot de grosses gouttelettes comme ça qui tombent sur l'avant. Et cette simple évocation, cette double évocation nous fait comprendre qu'on avait raison en parlant de l'eau. Il y a encore un petit reste de fresque au fond du bâtiment qui a été protégé, mais bien sûr que le temps, hein, quand je parle des années 900, n'a pas permis de tout conserver. Ça, c'est une des grandes fresques que l'on peut voir à Cacaxtla. Je vous dirais que la deuxième surprise, elle nous attend quelques mois plus tard, lorsqu'on a voulu fouiller le reste du site, et tout à coup, là, c'est carrément 20 mètres de peinture qu'on va découvrir d'un seul coup. Un mur entier, une chapelle Sixtine à la façon précolombienne.
Allez, je suis impatient, Maurice. Parlez-moi de cette seconde découverte.
Alors, déjà l'endroit, j'ai parlé d'un hangar fantastique qu'on a construit après, bien sûr. Mais quand on a trouvé le premier endroit des peintures, on s'est dit, il y en a peut-être d'autres ailleurs. Et on a remarqué que partout, le stuc était là, des matériaux extrêmement fragiles. Devant l'aigle et le jaguar de tout à l'heure, il y avait même un relief qui avait été collé par-dessus avec un personnage un peu façon côte du Golfe, un peu façon Maya. Enfin, c'est la première fois qu'on mélange un peu toutes les civilisations du Mexique sur un site. Mais c'était de la terre crue. Donc, des matériaux qui pouvaient partir en quelques heures avec une simple pluie d'altitude, bah, tout ça aurait été détruit. Donc on a protégé tout cela, on a mis immédiatement un premier bâtiment. Et puis quand on a trouvé la fameuse fresque de la bataille, là alors on était complètement ébloui. C'est 22 mètres de peinture avec un petit escalier central qui permettait de monter dans un bâtiment avec des colonnes. Tout ça est démoli si vous voulez, mais on l'imagine très bien. C'est simplement un panneau qui est posé en oblique comme cela sur le devant du grand bâtiment. C'est une sorte d'immense panneau publicitaire des deux côtés de l'escalier. Et là on a, je ne les ai même pas comptés, mais il y a plus de 50 personnages qui sont grandeur nature. Alors, prenez des positions.
Elle est horrible, cette fresque, hein, quand même.
Vous la trouvez horrible par les aspects
Par l'aspect, par la force, le...
Il y a d'abord le mouvement.
Le sang, etc. Hein.
Il y a d'abord le mouvement. Il y a des personnages qui, de nouveau, portent des attributs du jaguar et d'autres qui portent des attributs d'oiseau. Alors, bien sûr, on est chez les Indiens, on aime les plumes, on aime les harnachements, il y a des tissus absolument somptueux. On n'avait jamais vu des costumes précolombiens d'une telle qualité. C'est-à-dire que là, vous avez la broderie, vous avez le petit devant, vous avez carrément des colliers, des bracelets précis, des choses aux chevilles. Tout est absolument peint de façon, je disais, Chapelle Sixtine, c'est d'une précision diabolique. Mmh. Alors, vous avez raison, il y a quelque chose de cruel, mais il y a quelque chose d'intéressant. C'est qu'on voit que les personnages qui sont jaguars sont assez nus, comme ça, dans leur attitude. Ils portent des attributs, des gros pectoraux, quelques petits... Quand je dis un pectoral, c'est naturellement quelque chose en pierre, avec de la jadéite, et avec la moue du jaguar, par exemple, un personnage. Vous pouvez avoir... tous ces personnages-là portent des lances, des javelines, des couteaux incroyables, ces énormes couteaux de pierre, hein, qui faisaient carrément 20 ou 30 cm de longueur, c'est du silex, hein. C'était carrément, ça se prenait carrément à la main comme cela et on attaquait. Et alors ces personnages-là ont l'air d'être très sportifs, hein. Ils sont prêts au combat, ils sont vraiment très très puissants.
C'est les guerriers, hein.
Ce sont les vainqueurs. Et les vaincus, ce qui est extraordinaire, il y en a deux surtout qui sont de chaque côté de l'escalier, ils sont somptueux, ils ont des habits absolument incroyables, ils ont des nœuds aux chevilles, et un harnachement tout à fait royal. Alors celui de droite, par exemple, qui est à droite de l'escalier, le premier qu'on voit, c'est celui qui nous saute aux yeux, parce qu'il est vraiment très visible. On se dit, il est magnifique, il ne peut pas être vaincu. Bien, si vous l'observez bien, tout à coup, vous voyez qu'il a pris une javeline carrément dans la joue. Et on la voit peinte avec le sang qui coule, etc.
C'est l'horreur.
Et là, vous vous dites, ce vaincu est quelqu'un de fantastiquement noble. C'est un grand seigneur, c'est un grand prêtre. Donc, on montre que les vaincus sont presque plus riches, je dirais plus lourds que les vainqueurs. Et en l'occurrence, quand on voit certains détails, on se dit, comment est-ce qu'on a pu décrire une scène pareille? Parce que le précolombien aime bien le sacrifice humain, c'est vrai, mais rarement on tue sur le champ de bataille. Là, c'est vraiment la guerre absolue, je dirais presque fratricide, entre deux clans, entre deux idées, jaguar, oiseau. Et en l'occurrence, moi ce qui m'a fasciné la première fois où je les ai vus, vous savez, en médecine, on sait très bien la différence entre une veine et une artère. Eh bien là, par exemple, quand vous avez eu un coup de javeline ou un coup de ce fameux poignard de silex, eh bien on voit très bien sur la fresque la différence entre le jet de sang de l'artère
ou
de la veine. C'est fantastique. On voit ce qui coule et on voit ce qui gicle, hein, si vous voulez. Et vous avez un personnage que moi, je le trouve, bon, c'est un peu... C'est un peu boucherie, il faut l'avouer, mais l'attitude est incroyable.
Des boyaux.
Il y a déjà quelqu'un de coupé en morceaux par terre. Vous voyez des flots qui sortent un peu comme ça. Et vous en avez un qui était à genoux avec une javeline. une brisée dans la cuisse, et il tient carrément ses tripes. C'est-à-dire, vous avez les boyaux, le corps est peint en rouge, et ses tripes.
Il est bientôt midi, hein, Maurice.
Ben oui, je sais bien. Non. Mais en l'occurrence, vous avez cette formation jaune comme ça, bien typiquement en boyau comme ça. Et il tient sa main dessous pour soutenir ça. Il y a des choses absolument folles. Il y a un carillon, il perd sa rate. Enfin, on voit des morceaux de l'intérieur des corps qui sortent comme ça. Bon, c'est d'une violence extrême, et il y a vraiment cette idée du vaincu. On attrape les gens par les cheveux, on les pousse en terre, et ces vainqueurs, eh bien, ils nous montrent simplement leur vitalité, et ça bouge, c'est ça qui est extraordinaire. Sur 22 mètres, on a l'impression que tout grouille avec les couleurs qu'on évoquait tout à l'heure, hein. Le jaune, le rouge, le même bleu turquoise, puis partout, des hiéroglyphes pour donner le nom aux personnages. Alors, sont-ils réels? Sont-ils divins? Est-ce que c'est de nouveau le conflit entre deux idées, comme on l'a vu sur le plan religieux tout à l'heure? Bah, là, il reste quelques énigmes. Mais en tout cas, comme scène de bataille, on a vraiment l'impression qu'on parle à la fois des tropiques et des terres d'altitude. Il y a eu un jour à Kakakshla où ça a dû vraiment chauffer.
Est-ce qu'on en a découvert d'autres de fresques de ce type aussi horrible?
Horrible.
Par le fait de montrer le combat comme ça.
Bah, le combat, il est superbe. Quand on parle de peinture en soi, c'est la première
fois. Non, la peinture est superbe.
Ah oui. Ça, je crois qu'il faut le dire quand même. Tout à l'heure, c'était un petit peu dégoûtant et c'est bien le mot qui convient. Oui, on en a découvert d'autres. Il y en a une qui m'a intéressé. On vient de la découvrir et je dis vient de découvrir parce qu'on va en découvrir d'autres. C'est tellement immense comme site. On a encore toute la montagne d'en face, hein. Chaque colline qui est autour permettrait peut-être de trouver d'autres fresques comme celle que j'évoquais tout à l'heure.
Eh bien, parce que maintenant, à l'heure actuelle, on continue à
faire. Ah oui, on travaille toujours. Et en l'occurrence, c'est la restauration qui donne aussi énormément énormément de travail. Et bien, tout à coup, dans ce qu'on appelle l'endroit rouge ou le palais rouge, on a découvert une sorte de banquette avec les captifs de tout à l'heure, carrément allongés comme cela. Alors là, c'est la fin pratiquement. Et dessous, il y a des hiéroglyphes très intéressants qui parlent des noms de lieux. Ça vous rappelle quelque chose ? On en a parlé à Montalban. C'est vraiment une publicité pour dire on a pris telle ville, on a conquis tel endroit, etc. Mmh. Et un peu plus loin, alors ça a été la toute dernière révélation, on a trouvé quelque chose de beaucoup plus doux alors, mais c'est la même image qui revient, c'est-à-dire une sorte de conclusion. On voit que les gens de Kakakchla étaient obsédés par l'eau, par l'agriculture, par ces divinités autour du maïs. Et bien là, on a trouvé un escalier qui descend comme cela dans un couloir, et sur toute la paroi qui longe l'escalier, il y a vraiment une cascade. C'est-à-dire qu'on a peint une cascade qui glisse comme ceci sur le bord de l'escalier, avec de nouveau des animaux incroyables. Il y a par exemple une grenouille qui remonte les marches, elle est géante, comme ça, elle fait 30 ou 40 centimètres de longueur. Et derrière ces personnages aquatiques qui sont dans l'eau, comme si c'était dans un endroit planté, si vous voulez, l'eau et l'agriculture, c'est tout proche, vous avez de nouveau du maïs, mais vous avez par exemple un plant de cacaoyer. Je ne sais pas si vous avez déjà vu du cacao, c'est un arbre assez curieux avec les cosses qui sont collées comme ça au tronc. Et il est peint en bleu avec les cosses rouges pour bien montrer qu'il y a de nouveau cette vitalité, ce côté turquoise qui est à l'intérieur. Et juste à côté du cacaoyer, vous avez un homme, un vieillard avec un côté très édenté, une sorte de masque comme ça. Il porte de nouveau un jaguar sur la tête, et qu'on mélange tous ces... C'est pas grave, on va peut-être pas tout comprendre, mais on va comprendre surtout que tout est mélangé. Je crois que c'est ça qui est important. Et ce personnage est debout, et derrière lui, il a déposé un objet qui m'a complètement fasciné la première fois où je l'ai vu. Comment vous annoncez cela ? Quand on est précolombien, quand on visite le Mexique il y a 1000 ans, Kakakchla, je vous l'ai dit, était posé sur un endroit stratégique. Il y a des fossés, il y a des fortifications, mais il y a surtout cette idée d'échange entre les hauts plateaux, 2600 mètres où nous sommes, et puis ces terres chaudes, ces tropiques, ce cacao, ces fortunes de plumes, de caoutchouc, tout ce que vous voulez, qu'on a déjà évoqué pour les Olmecs, pour toutes les terres du Golfe, pour les Mayas. Eh bien, ce personnage porte derrière lui une sorte de hotte géante. Une hotte qui prend toute la hauteur du corps, pratiquement. Et il a déposé un bâton sous sa hotte, et elle est simplement posée dessus, comme ça. Hein. Lui, il discute, il est devant, il est en train de faire quelque chose, et sa hotte est posée. Et dans sa hotte, eh bien, il y a tous les produits dont on pouvait rêver à l'époque précolombienne. C'est un peu comme l'attaché caisse d'aujourd'hui qui est plein de billets de banque. Mm-hmm. C'est vraiment le marchand. C'est peut-être un dieu. C'est peut-être une idée mythologique, puisque tout ce qui est autour grouille de nouveau. Mais ce personnage nous dit, je viens avec des plumes de Quetzal, je viens avec des carapaces de tortue, j'ai des produits d'ailleurs, et je suis capable de les transporter. Mais en même temps, il faut comprendre qu'un marchand est un espion. Il va connaître l'ensemble du monde. Vous l'envoyez au bout du monde. Vous partez depuis chez nous, par exemple. Là, je suis de nouveau en Suisse, mais vous allez jusqu'en Sicile pour savoir si ça existe. Vous allez jusqu'à Jérusalem, vous allez jusqu'à Saint-Jacques. Là, je parle de religion volontairement. Eh bien, le précolombien marchand partait de Kakakchla, descendait sur la côte du côté d'El Tarin, où se trouve Veracruz aujourd'hui, pouvait aller même dire bonjour à un Maya, ramener des idées, pourquoi pas, un peintre. Pour l'aider dans ses fresques. Et quand on voit les tons qui ont été utilisés, la précision diabolique de ses peintures, on se dit qu'il y a eu un ou deux ou trois grands seigneurs, selon l'époque, entre 750 et 900, qui ont voulu montrer quelles étaient leurs divinités, quelles étaient leurs puissances, quelles étaient aussi leur force intérieure, c'est-à-dire tout ce qui fait le monde et qui va permettre, naturellement, dans un endroit comme celui-ci, de permettre à une population de vivre. C'est-à-dire il n'y a pas que des guerres, il n'y a pas que du commerce, il y a aussi l'agriculture, l'eau nous tombe sur la tête. N'oubliez pas, la petite source de San Miguel, elle existait déjà, elle porte un nom précolombien, c'est la source des Opilotes, le mot Atl, le mot eau, se retrouve dans le nom même de cette source. On peut s'appeler Diego, on peut avoir un nom d'Indien et être harnaché comme on l'a vu tout à l'heure. Ces personnages ont toujours vécu ici à Kakakchla, c'était une capitale, elle a été oubliée. Aujourd'hui c'est un peu le centre du monde quand on parle d'art précolombien. On ne peut plus aller au Mexique en ignorant Kakakchla, et pourtant je suis sûr que vous ne connaissiez pas le site.
Et on se dirige de quel côté dimanche prochain ?
Bon, on ira juste à côté. Cette petite ville rouge m'inspire. J'aimais bien la couleur de tout à l'heure. On va recouvrir toute la Xcala, la petite capitale. On va la laisser dormir comme si elle était là au XVIe siècle. On la découvrira comme si vous étiez Cortés. Ce sera une ville favorisée puisqu'elle a aidé les conquérants. Mais aujourd'hui, elle dort, c'est vrai. C'est l'état le plus paysan, le plus simple. Peut-être le plus beau du Mexique parce que personne n'y va.
À dimanche prochain.